Alors, il y aura finalement assez peu de références à la maritimité dans cette communication. En tout cas, ça ne sera pas le sujet principal. Alors d'abord, on peut trouver bizarre donc d'associer ces deux territoires insulaires qui, a priori, n'ont pas grand-chose en commun. Donc il s'agit tout simplement de deux des trois cas que j'ai définis comme étant des îles frontières dans le cadre de ma thèse de doctorat soutenue en 2006 dans ces lieux mêmes. Donc cette thèse avait été l'aboutissement d'une réflexion qui avait été initiée par une maîtrise sur la région Grandvillaise, dans laquelle j'avais mis le doigt sur le fait que Grandville était, par certains aspects, une ville frontière, avec des effets positifs et négatifs selon les domaines concernés, dans le domaine de la pêche, dans le domaine militaire autrefois, dans celui de la plaisance aujourd'hui, donc précisément en raison de la présence d'îles étrangères. Mais ce n'était pas le sujet de cette maîtrise, et j'ai ensuite abordé cette question en troisième cycle, d'abord en faisant au cours de l'année de ce que l'on appelait encore le DEA, une étude sur les échanges de différentes natures entre les îles en Normandie et le continent, puis en thèse, en comparant donc trois exemples, trois situations d'îles frontières, les deux dont nous allons parler aujourd'hui, plus Trinidad, donc qui se trouve à proximité du Venezuela, au même titre que Jersey se trouve très près de la France et Saint-Pierre-et-Miquelon très près du Canada. Alors, dans le titre de cette communication, le terme de résurgence s'applique à des éléments culturels propres aux îles en question et qui ont été plus ou moins enfouis, mis en difficulté, voire mis en sommeil pour différentes raisons que je vais évoquer au cours de cet exposé. Donc, Jersey, Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être qualifiés d'îles frontières à cause de leur plus grande proximité avec un pays étranger qu'avec celui dont elles dépendent, même si ces situations s'appliquent en l'occurrence à deux réalités bien différentes, puisque Saint-Pierre-et-Miquelon est une collectivité d'outre-mer dépendant d'un point de vue institutionnel intégralement de la métropole, distante d'environ 4 000 km, avec quelques prérogatives dans le domaine fiscal et un droit de regard sur les questions touchant à son environnement régional, donc en l'occurrence canadien. Donc Saint-Pierre-et-Miquelon compte environ 6 100 habitants pour une superficie de 242 km² et donc se situe à une vingtaine de kilomètres de la péninsule de Burin, au sud de l'île de Terre-Neuve. Alors que Jersey est une dépendance de la couronne britannique qui ne dépend du Royaume-Uni que pour la défense et les affaires étrangères et qui compte environ 90 000 habitants sur 116 km² et constitue un bailliage au même titre que Guernesey, mais à la différence de celui-ci, n'est constitué que d'une île habitée, plus les plateaux rocheux, des maquis et des écrémous. Donc ces situations particulières d'îles frontières que l'on peut qualifier d'anomalies géopolitiques donc sont des témoins résiduels de la tonalité largement conflictuelle courant sur plusieurs siècles entre la France et l'Angleterre. Donc en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, la souveraineté française ne découle pas d'un rapport de force favorable à la France, et il s'agit au contraire d'une concession de l'Angleterre triomphante lors du traité de Paris en 1763, qui soldait la guerre de 7 ans. Donc Saint-Pierre-et-Miquelon y est concédé à la France strictement en tant que base de pêche démilitarisée. Et en 1814, cette souveraineté française, d'ailleurs mal comprise à Terre-Neuve, a été confirmée et il a été mis fin à une série de déménagements liés au conflit franco-anglais. Donc avant 1713, Saint-Pierre-et-Miquelon est sous contrôle français. Le traité d'Utrecht en 1713 l'attribue à l'Angleterre. Le traité de Paris, comme je viens de le dire, rétrocède l'archipel à la France. En 1778, la guerre d'indépendance américaine offre un prétexte à l'Angleterre pour occuper Saint-Pierre-et-Miquelon, qui, en 1783, par le traité de Versailles, revient dans le giron de la France, pour retomber en 1790, dans le contexte de la Révolution française, sous la coupe britannique. La paix d'Amiens permet un bref retour des Français en 1802, mais avant un an plus tard d'être de nouveau occupé par les Anglais. Et enfin, en 1814, avec réoccupation effective en 1815, le retour définitif à la France. Donc, en ce qui concerne Jersey, c'est moins compliqué, quoiqu'il y ait eu plusieurs épisodes, notamment au cours de la guerre de 100 ans, pendant laquelle Jersey a parfois été occupée par les Français. Mais surtout, ce qui est pour moi intéressant, c'est d'être entouré aujourd'hui d'historiens qui vont peut-être me permettre de confirmer mes doutes quant à ce que nous serine l'historiographie officielle sur les îles anglo-normandes, comme quoi elles seraient restées, sous-entendues de leur propre initiative, fidèles à la couronne britannique. On a en quelque sorte donc la première pierre de la construction identitaire une espèce de storytelling, hein, une invention de la tradition, alors que la réalité est probablement moins idyllique. Donc j'ai plusieurs éléments qui me semblent aller dans ce sens. D'abord, il est difficile d'imaginer une quelconque autonomie décisionnelle pour des territoires insulaires qui étaient constitués de fiefs appartenant à des seigneurs normands. Par ailleurs, la couronne de France ne semble pas avoir envisagé de façon volontariste le fait de pouvoir intégrer les îles à la reprise du duché de Normandie en 1204, mais également et surtout, je crois, l'opportunisme de la couronne britannique qui a aussitôt appréhendé l'intérêt de disposer de ces îles si proches de l'ennemi intime et qui, pour les conserver, a déployé à la fois la carotte en accordant des privilèges aux seigneurs ayant opté pour leur possession sur les îles et en Angleterre, plutôt que pour celles sur le continent, mais également le bâton en retenant la tour de Londres jusqu'à ce que la situation se stabilise, un certain nombre d'enfants de seigneurs possédant des fiefs sur les îles. Donc toujours est-il que la France a dû s'accommoder de la présence de territoires étrangers insérés dans une échancrure prononcée de son littoral. Et quand on regarde une carte, qu'on se rend mieux compte de l'emprise actuelle, hein, des eaux territoriales des deux bailliages de Jersey et de Guernesey dans le golfe normand-breton. Il n'est pas étonnant donc que pendant des siècles, les îles anglo-normandes aient joué un rôle stratégique non négligeable, que ce soit Guernesey, qui, si on réfléchit bien, était on ne peut mieux placé, hein, pour aider au contrôle de la route maritime de la plus haute importance qui relie Londres et les ports de l'Europe du Nord au reste du monde, ou Jersey, situé à 24 km de la France et qui s'est avéré, dans différentes circonstances, avoir une capacité de nuisance non négligeable, notamment pendant la Révolution française. Donc on a eu là finalement une zone frontalière assez complexe, marquée par une forte ambivalence, une langue commune, l'anglais n'étant très essentiellement pratiqué sur les îles que par les soldats britanniques en garnison, des échanges commerciaux avec le continent plus ou moins licites, mais également un contexte géopolitique qui fait de ces territoires des points de fixation gênants pour la France toute proche. Donc je vais donc aborder cette question de la résurgence culturelle en la reliant d'abord à la faculté des territoires insulaires en question à s'être dans une large mesure détournés de leur environnement proche, régional comme on dit en géographie, donc pour des raisons très différentes, mais qui dans le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans celui de Jersey sont liées à une intégration précoce et courant sur le long terme dans des réseaux mondialisés. Donc si on commence par Jersey, un auteur, Jamieson, dans son ouvrage « People of the Sea, the Maritime History of the Channel Islands », révèle la présence de navires de Jersey dans les ports des cinq continents vers la fin du XVIIIe siècle. Et cette intense activité commerciale est notamment liée à la prise de contrôle par des maisons jerseyaises de la pêche et du négoce de la très abondante morue du golfe du Saint-Laurent à partir d'établissements de pêcheurs installés le long du littoral de la Gaspésie et qui leur permet de pratiquer un commerce transatlantique très lucratif qui va durer pendant plus d'un siècle à partir des années 1760. Donc cette aventure commerciale de grande ampleur s'inscrivait dans la continuité d'autres activités maritimes d'un excellent rapport, à savoir donc la contrebande et la guerre de course. Donc les îles anglo-normandes ont donc eu historiquement une certaine aptitude à brasser des capitaux et à intégrer des réseaux de plus en plus étendus. Donc et la déclinaison contemporaine de cette intégration à des réseaux mondialisés, c'est bien entendu l'industrie financière qui a pu vraiment se développer vers le dernier tiers du XXe siècle, lorsque les bailliages donc, ont créé les conditions du drainage des capitaux vers des établissements qui, en s'installant sur les îles, pouvaient bénéficier d'un régime fiscal très favorable et des services de juristes, fiscalistes de haut niveau, donc qui constituent désormais une armée, rien que pour Jersey, de 13 000 personnes, tout au service de l'optimisation des produits financiers. Donc Jersey se retrouve, à partir des années 70, en bonne place comme centre financier offshore. Donc quand on égrène leur liste, Jersey apparaît en général assez vite, comme on le voit sur cette valise, donc avec des alter ego qui se nomment ici Monaco, les îles Caïmans, la Suisse, Londres ou le Luxembourg. Alors la conséquence, c'est évidemment un nouveau boom économique pour un territoire qui avait déjà construit une économie solide grâce au commerce, mais également grâce au tourisme et une agriculture, un élevage très performant à partir du XIXe siècle. Donc Jersey affiche au début du XXIe siècle des indicateurs particulièrement viables, quatrième au monde pour le PIB avec 57 000 dollars par habitant, une richesse facilement repérable quand on se promène sur l'île. Je prends l'exemple classique de la marina, cela pourrait être aussi celui du parc automobile ou du parc immobilier, une cinquantaine d'établissements bancaires comme ceci, par lesquels transitent environ 200 milliards de livres de dépôt, des dizaines de milliers de sociétés enregistrées, des compétences reconnues, recherchées par les uns et stigmatisées par les autres dans la gestion de produits financiers sophistiqués, comme les trusts notamment, qui sont la grande spécialité de Jersey et qui sont les produits financiers opaques par excellence. Donc, ce boom économique s'accompagne également d'un boom démographique avec une augmentation continue de la population depuis un demi-siècle. Et on en vient alors à la question identitaire, dans la mesure où il y a une dilution de la culture anglo-normande en relation avec la baisse relative du nombre d'habitants originaires de l'île, phénomène éminemment lié au boom des activités financières. La proportion de personnes nées en France et vivant à Jersey passe de 10% à la fin du XIXe siècle à moins de 1% à la fin du XXe. Durant la même période, donc, la part de résidents nés au Royaume-Uni passe d'environ 10 à 37%. Également, la communauté étrangère la plus représentée sur l'île n'est d'ailleurs plus française, mais portugaise, majoritairement originaire de l'île de Madère, dont les membres sont venus remplacer les Français à partir des années 60 pour occuper les emplois les moins bien rémunérés, fournis par des employeurs bénéficiant, il faut le dire, d'un droit du travail peu contraignant dans l'agriculture et la restauration essentiellement. Il y a eu également le changement dans les repères politiques traditionnels. Les États de Jersey se sont restructurés en 2005. On a transformé les comités en ministères. On a réduit l'importance politique du bailli et il y a eu des menaces sur les attributions représentatives du connétable, qui est un peu l'équivalent d'un maire et qui a toujours été un personnage clé du système politique anglo-normand. Donc tout ceci a créé des tensions pas forcément très visibles, notamment vues du continent, mais en tout cas très audibles, si j'en crois les discussions que j'ai eues avec un certain nombre de responsables, notamment plusieurs connétables. Donc c'est moins donc la question des relations avec la France qui fait réagir un certain nombre de responsables quant à l'anglicisation de l'île, que le sentiment donc d'une perte de repères identitaires. Autre problème, très lié encore et toujours à l'importance prise par la finance dans l'économie, c'est celle de l'image de marque. Évidemment, à Jersey, donc, on se défend d'être un paradis fiscal. D'ailleurs, tout le monde sait depuis les déclarations de notre président qu'il n'y en a plus. Donc la posture, c'est la main sur le cœur, on est irréprochable, on collabore. Donc maintenant, c'est juré, on donne aux services fiscaux des pays qui en feront la demande, des renseignements sur tel ou tel client d'une banque installée à Jersey. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les services et les dispositions les plus recherchées de l'ingénierie financière, faible imposition, enregistrement de société, gestion de trust notamment, donc sont toujours proposés. Et de toute façon, les possibilités de contourner les grands principes énoncés par tel ou tel politicien ne manquent pas. Alors on en vient à ce à quoi j'ai fait allusion dans le titre de cette communication, donc c'est à l'ancrage ou au réancrage identitaire que je mets en relation avec cette, je dirais, cette dérive planétaire qui a fait que Jersey, donc toute à son intégration globale, s'est tournée vers le lointain, alors que par ailleurs elle s'est progressivement détournée de son environnement continental. Donc dois-je rappeler d'un point de vue commercial que si Saint-Malo recueille quelques miettes quant à l'acheminement des importations vers les îles, il n'y a quasiment aucun trafic commercial entre les îles et la péninsule du Cotentin. Donc face à cette implication croissante dans des systèmes financiers ô combien mondialisés et aussi aux évolutions défavorables au vieux modèle anglo-normand quant à l'organisation politique du bailliage, on peut donc selon moi qualifier de recours identitaire symbolique la stratégie qui s'est mise en place au cours des toutes dernières années. Voici par exemple les 7 objectifs d'un document intitulé « Development of a Cultural Strategy for the Island » approuvé par les États de Jersey en 2005. Donc, objectif 7, élargir l'accès et la participation aux activités culturelles. Objectif 6, aider aux apprentissages tout au long de la vie. Objectif 5, aider au développement des cultures traditionnelles. Objectif 4, enrichir la qualité de vie pour tous les résidents de l'île et améliorer l'accueil des visiteurs. Objectif 3, aider au développement d'activités économiques. Objectif 2, intégrer pleinement les activités culturelles dans le développement économique et social. Et enfin, c'est pour cela que je me suis permis ce compte à rebours. Celui qui est mis en avant, c'est encourager, développer et consolider l'identité de l'île. Donc, on peut voir là deux types d'instrumentalisation de la référence identitaire. Donc, l'un est à usage externe, hein, c'est l'affirmation d'une identité nationale, de la volonté de se distinguer par rapport au monde. Et tout d'abord, dans sa relation avec le Royaume-Uni, on est en ce qui concerne ce dernier dans un processus d'émancipation régionale avec une affirmation identitaire forte que l'on retrouve par exemple en Irlande du Nord, bien sûr, mais également en Écosse, au Pays de Galles ou encore en Cornouailles. Donc Jersey prétend s'inscrire dans ce processus. L'autre est à usage interne, donc c'est la volonté de cimenter les différentes composantes de la population, de leur donner une conscience d'appartenir à la même communauté. Donc, ces objectifs passent par la définition de symboles. Donc, Jersey avait déjà son drapeau et ses armoiries, mais il n'avait pas d'hymne. Et c'est chose faite depuis novembre 2008. Jersey a maintenant un hymne national. Et le qualificatif, bien sûr, n'a rien d'anodin, un hymne dit national. Donc, c'est assez grandiloquent. Dans les paroles, comme vous pouvez le constater, ça l'est également en ce qui concerne la musique dont je vais vous faire grâce. Notons tout de même donc les allusions à l'insularité, à l'histoire, à la mer. Donc aux dernières nouvelles, ou plutôt à la lecture de forums, il y aurait des voix qui s'élèveraient pour remettre en cause ce choix qui date de novembre 2008. Donc à ce sujet, j'avais fait une communication sur ce thème à Sydney. Et il y avait une autre communication donnée par un professeur de musicologie de l'Université d'Otago à Dunedin en Nouvelle-Zélande, donc Henry Johnson, qui est originaire de Jersey, dont le sujet était précisément le choix de l'hymne national à Jersey, on était donc en 2008, et son propos tenait autour du fait que l'un des airs nominés était Ma Normandie, et comme on a préféré le morceau que je viens de vous montrer, on voit bien que ce retour aux fondamentaux avait tout de même que ses limites, quoi. Donc, alors, il y a un autre élément à la fois symbolique et en lien direct avec le passé, donc c'est la promotion, on pourrait dire, l'exhumation du gerrier, langue moribonde, puisqu'en 2001, il n'y avait plus que 113 personnes, selon les statistiques officielles, qui le déclaraient comme langue maternelle, donc soit 0,13% de la population, alors qu'environ 3% le déclaraient comme langue secondaire. Donc voici une présentation du gerrier en gerrier, donc qui évoque également sa diffusion dans les médias. Alors, il y a une volonté gouvernementale en liaison avec le monde associatif de faire du gerrier un élément fort de la consolidation de l'identité de l'île. Cela passe par des actions dans le domaine de l'éducation. Donc, c'est la mise à disposition d'enseignants destinés à assurer des cours optionnels avec en parallèle une procédure de reconnaissance des certificats obtenus par des collégiens qui a été validée par le ministère de l'Éducation à Jersey, mais qui a été refusée au niveau du Royaume-Uni. Et en élargissant, il y a également des actions au niveau européen. Jersey est engagé dans un processus de ratification du gerrier à la Charte européenne sur les langues minoritaires. Et il y a également, et cela marque davantage les esprits des visiteurs, donc une mise en valeur de l'affichage public en gerrier, comme par exemple des annonces publicitaires, bon, des panneaux explicatifs, des injonctions ou encore la promotion du gerrier. Par ailleurs, en 2007, il a été décidé, donc en ce qui concerne Saint-Hélier, la capitale, que désormais les nouvelles rues devraient être baptisées uniquement en gerrier ou en français, comme cela était le cas dans le passé. Donc un responsable de l'enseignement du gerrier m'a récemment parlé d'une polémique significative à propos du baptême d'une rue en l'honneur de la capitale de l'île de Madère. Donc il y avait la rue James et la rue Saint-James à Saint-Hélier. Donc, et pour éviter toute confusion, on a décidé de débaptiser la rue Saint-James et de lui donner le nom de Funchal. Donc cette rue se nomme désormais rue de Funchal et non pas Funchal Street, comme le souhaitait un certain nombre de personnes ne voyant pas le rapport entre la France et la communauté portugaise de Jersey, et non pas non plus Rua da Funchal, puisque le portugais n'a pas vocation donc à s'afficher officiellement. Donc on voit ici maintenant l'inauguration en 2005 par la reine d'une piège de l'avenin, je ne sais pas si j'ai l'accent, une place de l'avenir, donc à l'occasion du 60e anniversaire de la libération de l'île de l'occupation allemande. Et la reine, donc, qui à cette occasion se voit attribuer son titre de duchesse de Normandie, donc sous la forme assez plaisante de notre duc. On pourrait aussi évoquer rapidement donc la réactivation récente des liens avec le continent et notamment avec la basse Normandie à travers des rencontres folkloriques annuelles et à travers donc une volonté affichée de développer des échanges économiques qui, ceci dit, donc au-delà des effets d'annonce, ne se concrétisent quasiment jamais. Donc, à noter pour l'anecdote à quel point la vie politique jersiaise est à même de réserver des surprises par rapport à la question des relations avec la France, si l'on se réfère à cette proposition assez ahurissante faite dans le cadre très officiel d'une rencontre entre l'État de Jersey et le Conseil général de la Manche par un député de Jersey, donc à savoir la construction d'un tunnel entre Jersey et le continent. Donc, je peux vous dire que ce n'est pas un montage, hein, puisque donc j'étais moi-même dans la pièce où la photo a été prise, et que ce n'était pas non plus le 1er avril. Donc à ce jour, pour donner un petit peu de maritimité dans l'affaire, le meilleur exemple de coopération donc, est celui de la baie de Granville, qui est un espace donc, halieutique transfrontalier géré conjointement par les pêcheurs bretons, bas normands et jersiais. Donc là, on est ici dans un objectif avoué de pêche durable, intégré. Donc en attendant peut-être l'association d'une façon ou d'une autre des eaux de Jersey au projet de parc marin qui pourrait voir le jour en 2012, donc dans le golfe normand breton. On s'éloigne un peu de notre sujet, donc cela aura pu faire l'objet d'une autre communication. Et on va maintenant donc s'intéresser à Saint-Pierre-et-Miquelon. Contrairement aux petites communautés de pêcheurs de la côte sud de Terre-Neuve qui ont plutôt vécu repliées sur elles-mêmes, donc l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon donc a lui aussi bien souvent ressenti donc le souffle du grand large, donc en étant intégré dans les grands courants d'échanges transatlantiques qui ont couru sur plusieurs siècles, en lien bien sûr avec la pêche aux bancs de Terre-Neuve. Donc d'ailleurs à ce sujet, donc Saint-Pierre-et-Miquelon a joué selon des modalités différentes un peu le même rôle pour la pêche française que Passepébiac en Gaspésie a joué pour Jersey, donc en étant une plaque tournante du négoce de la morue qui partait soit vers l'Europe, soit vers les Antilles. Donc par ailleurs, donc les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon ont été des pêcheurs, certes aussi, mais aussi beaucoup des avitailleurs. Donc on n'a pas oublié sur l'archipel les centaines de navires européens qui, jusque dans les années 70, venaient se ravitailler à Saint-Pierre dans la mesure où l'accès des ports canadiens leur était interdit. Donc maintenant, à propos des relations actuelles avec le Canada, donc il y a beaucoup plus à dire finalement qu'au sujet des relations entre Jersey et la France, donc ne serait-ce qu'à cause d'une part de l'éloignement par rapport à la métropole et d'autre part en raison de la petitesse et de l'isolement du territoire qui fait du Canada un partenaire incontournable dans différents domaines stratégiques comme les approvisionnements ou la santé. Donc ce qui caractérise les relations entre le minuscule archipel et l'immense pays qu'est le Canada, donc c'est une forte ambivalence, donc surtout perceptible si l'on en a la lecture à différentes échelles, si chères aux géographes. Donc à l'échelle des relations de voisinage, donc on constate une forte dissymétrie en termes de niveau de vie qui a été particulièrement mise en évidence par la crise de la pêche dans les années 90. Donc Saint-Pierre-et-Miquelon a disposé d'une assistance de la métropole sous forme de grands travaux, de subventions, d'une fonction publique d'État et d'une fonction publique territoriale importante. Donc j'avais relevé environ 800 postes dans les fonctions publiques pour une population d'environ 6 600 habitants. Donc ajouté à certains emplois atypiques et très bien rémunérés comme les plusieurs dizaines de postes de l'aviation civile ou de la station de RFO, on a donc un niveau de revenu moyen beaucoup plus élevé que celui des voisins les plus proches. Donc en ce qui concerne Terre-Neuve, la position du gouvernement canadien a été radicalement différente. Donc on a prié les habitants d'aller chercher du travail ailleurs. Donc le différentiel peut être considéré comme très important. Donc si l'on se réfère aux chiffres correspondant à la situation économique des petites communautés de pêcheurs de la côte sud de Terre-Neuve, prenons par exemple Point May, qui est tout simplement le village canadien le plus proche de Saint-Pierre-et-Miquelon, et qui présentait en 2006 le taux de chômage assez ahurissant de 68% selon Statistique Canada. Donc tout ceci entraîne des relations frontalières asymétriques. Hein, aujourd'hui encore, donc l'évocation des Terneuviens qui arrivent en été à Saint-Pierre par le bateau est quelque peu teintée de commisération, puisque l'image la plus souvent rapportée dans les témoignages donc, est celle de personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter dans les magasins français. Hein. Donc on retrouve, toute proportion gardée, des images évoquées par la romancière terneuvienne Françoise Anguéard, de ces gens de Terre-Neuve qui venaient en voisin à la fin du XIXe siècle faire du troc en échangeant perdrix, lapins et bois de chauffage contre vêtements usagés, alcool, farine. Donc dans l'autre sens, un certain nombre d'habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon ont profité du différentiel économique et du départ d'une partie de la population donc pour acheter des maisons à faible prix sur la péninsule de Burin. Donc ce phénomène d'achat de résidences secondaires existe aussi avec le nouveau Brunswick, notamment autour de la station balnéaire de Chédiac. Donc, par ailleurs, Saint-Pierre-et-Miquelon a souvent attiré donc, des jeunes femmes originaires de Terre-Neuve destinées à venir servir en tant que domestiques à Saint-Pierre. Donc beaucoup s'y sont mariées, ce qui a tissé un ensemble de liens familiaux qui perdurent au plus près de la frontière. Donc proximité, lien avec les proches voisins terneuviens, mais à une autre échelle également, âpreté des conflits d'appropriation de l'espace marin. Alors voyons comment a été délimitée la souveraineté française autour de l'archipel lorsque le moment est venu, au début des années 90, donc, de définir une fois pour toutes les limites internationales. Donc à cette occasion, donc, les autorités canadiennes ont, contrairement à la France, dit-on à Saint-Pierre-et-Miquelon, fortement mobilisé les compétences dont elles pouvaient disposer concernant le droit de la mer lorsqu'il s'est agi de faire valoir leurs arguments donc, auprès du tribunal arbitral de New York auquel les deux pays avaient fait appel en l'absence d'accord. D'abord, les deux pays se sont mis d'accord, accord bilatéral, donc en 1972, sur une frontière établie selon le principe de l'équidistance au nord et à l'est de l'archipel. Donc la deuxième phase s'est conclue par la définition d'une zone économique exclusive vers le large. Donc la demande française s'appuyait sur le principe de l'équidistance, mais le tribunal donc, a beaucoup mis entendu l'argumentaire canadien basé sur la reconnaissance des notions de facteurs équitables et de circonstances spéciales. Et voici donc la décision du tribunal. Alors il y a deux points facilement repérables sur cette carte qui ont particulièrement provoqué, qui irritent encore les habitants, dont provoqué la colère des habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc il y a d'abord la taille et la forme de la zone attribuée à l'archipel français. Donc les gens de Saint-Pierre-et-Miquelon l'appellent le tuyau. Donc au Canada, par dérision, c'est plutôt la baguette française. Donc à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc on considère qu'il n'y a pas de viabilité économique pour une zone aussi étroite. Et par ailleurs, donc, les habitants de l'archipel acceptent mal que la zone française soit encerclée par la zone canadienne et ne débouche pas directement sur la haute mer, disons la haute mer économique. Hein. Donc à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc, la colère par rapport au jugement du tribunal de New York donc, était décuplée par le fait que la même année, donc 1992, le Canada donc, a décidé un moratoire sur la pêche à la morue qui a privé l'archipel de ses sources de revenus, qui était, outre la pêche elle-même, la transformation du poisson qui occupait plusieurs centaines de personnes à Saint-Pierre. Donc le Canada était, en l'occurrence, explicitement perçu comme une entité hostile dont les actions pouvaient mettre en danger, sinon l'existence même de cette communauté, tout au moins sa survie économique, en l'obligeant à dépendre uniquement de l'assistance de la métropole. Alors le paradoxe, c'est qu'au plus fort de cette crise, de la dépression collective, hein, alors que les griefs vont à la fois vers le Canada et vers la métropole accusée de ne pas assez défendre les intérêts de l'archipel, il a bien fallu que Saint-Pierre-et-Miquelon redécouvre, même si ça n'allait pas vraiment de soi, donc son environnement canadien, en jouant si possible de ses spécificités et de sa situation particulière. Donc il y a donc eu, dès 1994, la mise en œuvre d'une coopération régionale institutionnelle, donc issue d'un accord international au plus haut niveau, donc entre le Canada et la France, avec des dispositions devant favoriser les coopérations dans différents domaines, pêche, aquaculture, tourisme, formation. Mais ce qui nous intéresse plus ici encore, donc c'est la revitalisation ou la résurgence dans ce contexte troublé, donc de référence identitaire, puisque l'on s'est souvenu sur l'archipel qu'il y avait une histoire commune au-delà des relations de voisinage avec Terre-Neuve, qui concernait plus précisément donc la composante acadienne, d'origine acadienne de la population. Donc vous connaissez l'histoire dramatique du peuple acadien. Donc je vais y revenir dans le contexte de la guerre de 7 ans qui a agité ces contrées au même titre que beaucoup d'autres. Donc l'épisode le plus emblématique est bien entendu celui du Grand Dérangement, lorsqu'en 1755, plusieurs milliers d'Acadiens sont dispersés, déportés vers la Nouvelle-Angleterre ou vers l'Angleterre, puis un certain nombre se retrouvent en France. Il se passe alors donc pour un certain nombre d'entre eux ce que l'on pourrait qualifier de grand mouvement d'élastique transatlantique, qui donne lieu à des errances parfois étonnantes et dont Saint-Pierre et Miquelon constituent parfois le point fixe dans la mesure où des Acadiens cherchent à se rapprocher au plus près d'une terre natale qui leur était désormais interdite. Et le point le plus proche, et même c'est, même si cela ne rentrait pas dans le plan des autorités françaises, donc nous parlons des années 1760, à partir de 1763, donc Saint-Pierre et Miquelon, et plus particulièrement donc cette île déserte et désolée nommée Miquelon, où ces paysans acadiens se transforment en petits pêcheurs en vivant dans des conditions particulièrement précaires. Donc, pour illustrer un exemple d'errance donc d'une famille acadienne particulièrement frappant, illustrant également le lien avec Saint-Pierre et Miquelon, c'est celui d'Augustin Benoît et de Catherine Thériault. Donc, Augustin Benoît et Catherine Thériault naissent en Acadie au début des années 1740. Ils sont pris donc dans le Grand Dérangement et se retrouvent adolescents donc dans la région de Saint-Malo. Ils se marient en 1760 à Saint-Servan et ont deux enfants. Ils font partie du premier voyage en 1763 de Bougainville, donc, qui a obtenu l'autorisation des autorités royales de fonder une colonie aux Malouines. Donc deux enfants naissent aux Malouines. Quatre années plus tard, les rois de France et d'Espagne se mettent d'accord pour estimer que les Malouines doivent être intégrées au vice-royaume de Lima. Donc ce qui entraîne un retour chaotique des colons via Montevideo, où ils passent 6 mois, et Cadix. Ensuite, la famille retourne vers l'Amérique du Nord, et plus particulièrement à Saint-Pierre et Miquelon, où deux autres enfants naissent. Et ils sont très, très probablement pris dans au moins deux des déménagements d'habitants de Saint-Pierre et Miquelon vers la métropole en 1778, entre 1778 et 1790, donc année du décès d'Augustin Benoît à Saint-Pierre. Donc on voit qu'une fille, donc Adélaïde, s'est mariée à Saint-Pierre, et qu'une autre naît et meurt à l'âge de 1 an, à Saint-Pierre également, et qu'une troisième naît également à Saint-Pierre, donc, et se marie en Normandie. Alors, au début du XXIe siècle, leurs descendants constituent donc une composante de la population particulièrement concernée par le passé de sa communauté. Donc on a assisté, même s'il y avait déjà eu des liens, notamment économiques, concernant la pêcherie de homards, donc avec le Nouveau-Brunswick, qui est le cœur de l'Acadie, donc on a assisté à une volonté de développer des relations à l'aune donc d'une référence identitaire et d'épisodes historiques. Donc cette volonté s'est matérialisée par la mise en place d'échanges scolaires et universitaires avec des conditions favorables offertes à des jeunes de Saint-Pierre et Miquelon pour aller étudier à l'Université de Moncton et dans les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick. Donc Moncton qui joue d'ailleurs un rôle intéressant concernant les relations entre Saint-Pierre et Miquelon et le Canada, puisqu'il s'agit donc de la ville francophone la plus importante du Canada atlantique. Et c'est là que se trouve le siège de la Société nationale acadienne, ou encore celui du Consulat de France pour le Canada atlantique. Donc, et les éléments symboliques jouent un rôle significatif dans cette volonté de développer des échanges, notamment à travers la pratique de la commémoration. Il y a eu deux événements de cette nature auxquels les Acadiens de Saint-Pierre et Miquelon ont tenu à être associés. Donc il s'agit du 400e anniversaire du premier établissement acadien en Amérique du Nord sur l'île Sainte-Croix, et aussi donc du 250e anniversaire du Grand Dérangement en 2005. Donc les commémorations peuvent être considérées comme une référence au temps, dans la mesure où l'on célèbre des anniversaires, mais la mémoire est aussi associée à l'espace à travers l'édification de monuments, de mémorials, de stèles érigées dans des lieux choisis pour leur valeur historique et symbolique. Donc cet objectif apparaît particulièrement significatif si l'on se réfère à la volonté des autorités de Miquelon de faire de l'île entière un mémorial dédié à l'identité acadienne. Donc le maire de Miquelon, qui est également sénateur, parle ainsi de ce projet dans un discours rapporté par le journal local. Nombreux sont nos frères acadiens qui ignorent jusqu'à notre existence même. Nous désirons partager avec eux nos lieux de mémoire, que sont l'église de Miquelon, le cimetière où sont enterrés Jacques Vigneault, Marguerite Bourg, Louis Béliveau, Louis Blaquière et de nombreux autres. La Roche à Biche, site du premier établissement acadien, les lieux dits Beaumont, Béliveau, Blondin et surtout un village de 700 habitants qui ont conservé depuis 250 ans, malgré le modernisme, une vie très proche de celle de leurs ancêtres. Donc en 2007, donc, cette volonté s'est trouvée concrétisée par l'inauguration d'un monument dédié à l'Acadie et aux Acadiens à Miquelon. Par ailleurs, donc, les liens du passé sont également présents à propos des contacts réguliers donc, avec les communautés Micmac au sud de Terre-Neuve. Donc, un certain nombre d'habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon évoquent le fait qu'ils ont du sang amérindien dans les veines. Donc, une illustration de cette volonté est explicite dans la déclaration d'un chef Micmac qui insistait lors d'une visite à Saint-Pierre-et-Miquelon sur le fait, et je le cite, qu'il était nécessaire de développer des liens économiques dans des contextes historiques et culturels. L'aspect français de Saint-Pierre-et-Miquelon n'est pas particulièrement évident. On voit donc par exemple que les bus scolaires donc, sont typiquement nord-américains. Donc, ce qui est drôle, c'est que on en parlait avec un collègue canadien, il est allé une fois à Saint-Pierre-et-Miquelon, il avait l'impression d'arriver en France, quoi. Et moi, quand j'arrive à Saint-Pierre, j'ai l'impression d'être en Amérique du Nord. Pour conclure maintenant, je crois que j'étais rapide. On peut dire que, donc, on a là de deux exemples de mobilisation par des communautés insulaires de référence identitaire, culturelle, selon des motivations et des contextes fort différents. Donc, à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a la nécessité, une quête tous azimuts pour trouver des solutions alternatives de développement qui passe finalement, même si le mot est tabou sur l'archipel, par une certaine intégration, le rappel des liens avec l'Acadie, qui ne concerne finalement qu'une partie de la population, donc est un élément constitutif de cette stratégie qui s'appuie sur des éléments tels que l'identité ou la mémoire. À Jersey, on peut estimer que le phénomène de résurgence ou de revitalisation culturelle n'est pas déterminé par une quelconque nécessité d'ordre économique, mais bien par la volonté de mettre en place un contrepoids symbolique à cette dérive qui non seulement éloigne l'île du continent, mais la met en rupture aussi avec l'idée bien entretenue d'une communauté insulaire soudée. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup.